2,7 comme 2,7 degrés. La planète s'achemine vers un réchauffement de 2,7 degrés à la fin du siècle si les États signataires de l'accord de Paris ne rehaussent pas leurs engagements. Ce sont les conclusions alarmantes du GIEC reprises par l'ONU avec les conséquences qu'on peut évidemment imaginer en termes de changement du climat et donc de nos conditions de vie. Alors on se souvient que l'accord de Paris prévoyait de limiter ce réchauffement à 1,5 degré et que le G20 a réaffirmé dimanche dernier cet objectif. Alors la question, Aurore Laluc, c'est est-ce qu'il est toujours atteignable cet objectif ou est-ce qu'il faut d'ores et déjà y renoncer?
Si on reste sur les trajectoires proposées par les pays aujourd'hui lors de cette nouvelle rencontre, on n'y arrivera pas. Là, avec les scénarios proposés, on est autour... on réduit nos émissions de 7,5%, là où il faudrait faire du 33% si on veut avoir 2 degrés, 55% si on veut avoir 1,5 degré. Donc vous voyez que le défi, il est énorme. En fait, en 8 ans, il faut réussir à réduire de moitié nos émissions de gaz à effet de serre. Donc malheureusement, on n'y est pas.
Vincent Liéger, la condition sine qua non pour atteindre cet objectif, c'est quoi? C'est de tourner la page des énergies fossiles?
Alors oui, il faut rappeler que le PIB est malheureusement indexé à notre consommation d'énergie, donc à 80% les énergies fossiles. Alors tout ce qu'on fait ce soir, ce qu'on a mangé à midi, notre voyage pour venir ici, etc., c'est des énergies fossiles, on est entouré par ça. Les énergies fossiles, pourquoi on les utilise? Parce que c'est quelque chose d'extrêmement confortable, très concentré en énergie, stockable, transportable, utilisable dans tous les sens, etc. Et il faut sortir de ça. Et les seuls moments où on a réussi à baisser notre empreinte écologique ces dernières années, c'était en période de crise, crise de 2008, c'était en période de confinement avec la récession qui s'en est suivie, qu'on a connue. Et il n'est pas possible de réduire, l'expérience nous l'a montré, toutes les études scientifiques aujourd'hui le démontrent, il n'est pas possible de réduire notre empreinte écologique sans questionner notre modèle économique qui est toxico-dépendant toujours plus à la croissance.
Philippe Zawati, on le voit avec la reprise post-Covid, la reprise mondiale post-Covid, elle se fait justement en recourant à nouveau aux énergies fossiles.
Forcément, c'est-à-dire que quand on s'arrête et qu'on a envie de redémarrer, on utilise le véhicule qu'on a sous la main. Et le véhicule qu'on a sous la main, c'est un véhicule qui fonctionne à l'énergie fossile. Et donc toute la problématique, c'est une problématique de transformation. Il faut, dans les 30 ans qui viennent, donc dans l'espace d'une génération, il faut réinventer et redéployer un modèle qui est complètement différent de celui qui a été construit au cours des deux siècles précédents, c'est-à-dire le modèle fossile. Et donc cette transformation complète de nos modes de consommation, de nos modes de production, va nécessiter un effort considérable. Après, la question, effectivement, c'est comment on réalise cet effort considérable. Et c'est là qu'on a des divergences sur la façon de réaliser ça, c'est-à-dire soit décroître, soit au contraire investir pour transformer ce modèle économique, c'est ce que je pense.
Ça, c'est ce qu'on appelle la croissance verte, on est d'accord ?
La croissance verte, en quelques mots, et ça vient d'être mentionné tout à l'heure, c'est de dire qu'on peut faire un découplage. C'est-à-dire qu'on peut continuer à croître et en même temps faire baisser les énergies, les émissions de gaz à effet de serre. Alors, ça existe. Ça peut, c'est possible. Il y a des démonstrations qui montrent que c'est possible. Alors, par exemple, il y a eu l'exemple de la... C'est généralement dans les pays riches aujourd'hui. Il y a l'exemple de la Suède, notamment, qui est cité. Et donc, on peut montrer qu'on peut réussir à continuer à croître tout en faisant décroître les émissions de gaz à effet de serre. La problématique majeure, c'est que la vitesse à laquelle... à supposer effectivement que ce soit possible, la vitesse à laquelle ça se fait est aujourd'hui incompatible avec les objectifs de 1 degré et 1,5 degré. Donc ça veut dire qu'on a pour réussir ce découplage, il faut transformer complètement nos modes de production et de consommation. Et ça nécessite des investissements massifs. Et donc c'est pour ça que on peut parler de croissance ou décroissance. Ce qui est certain, c'est qu'on va avoir besoin d'investir massivement.
Vincent Liéger, ce découplage, il est possible à vos yeux ou il est impossible? Alors, il faut se tourner vers la décroissance.
Toutes les études scientifiques de ces dernières années, puis on commence à avoir du recul parce qu'il y a des pays qui se sont engagés dans des transitions énergétiques, dans l'innovation verte, etc. Il y a déjà pas mal de temps, montrent qu'en fait, on n'est pas à la hauteur des enjeux. Donc on arrive à avoir des découplages partiels, locaux, dans des temps déterminés, mais il faut pas oublier une chose, c'est peut-être une des erreurs des COP, c'est qu'on ne fait pas face uniquement au problème du changement climatique, mais on fait aussi face au problème de l'effondrement de la biodiversité, on fait face à une convergence de crises qui sont interconnectées les unes aux autres, et l'exemple de la Suède est un très bon exemple, parce que la Suède, en se tournant vers les énergies vertes, a déplacé le problème sur d'autres choses, donc il n'y a plus le souci de la raréfaction des énergies fossiles, il y a moins de soucis par rapport au changement climatique, quand je dis moins, un tout petit moins, mais il y a de nouveaux problèmes avec des tensions sur d'autres ressources. Je pense notamment se tourner vers le tout électrique, c'est plus de lithium, c'est plus de cuivre,
qui aujourd'hui
de métaux rares, donc
de cobalt, etc., qui sont aujourd'hui de l'extractivisme, qui sont aujourd'hui très demandeurs aussi en énergie. Le lithium, le cuivre, c'est par exemple des tensions sur l'eau dans un pays comme le Chili, etc. Et sur les populations. Derrière, c'est l'extractivisme, c'est de l'expropriation des populations, c'est l'exploitation des populations, etc. Donc on se rend compte que au mieux, on arrive un petit peu à sauver quelques petits problèmes à la marge, mais on ne fait que déplacer le problème.
Ce qui explique que vous, Vincent Liégé, vous prenez la décroissance, on va avancer justement dans ce débat, parce que la décroissance, précisément, c'est pas du tout la position de l'exécutif.
Alors, Aurore Laluc, c'est toujours l'argument qui est apporté contre la décroissance, c'est de dire que si on décroît, on perdra des emplois et on ne pourra plus financer le modèle social, surtout le modèle social français. Alors, est-ce que c'est vrai ou pas?
Mais en fait, on voit bien que les extraits que vous venez de montrer sont excellents parce qu'ils prouvent que c'est un débat qui nous piège, qui nous enferme. Pourquoi ? Parce que la croissance, quand on parle de croissance, on parle de croissance du PIB. Le PIB, c'est un indicateur qui arrive dans un contexte spécifique. Les années 30 aux États-Unis, les années 40 en France, après la Seconde Guerre, à un moment, on a besoin de faire du développement matériel. Et il est là pour indiquer si nos politiques publiques vont dans le bon sens ou pas. Si on fait du développement matériel ou pas. Tout simplement. Un indicateur, c'est fait pour indiquer. Là, on a fait de la croissance ces dernières décennies un espèce de projet de société. En gros, s'il y a de la croissance, tout va bien. On a de l'emploi, on a moins de pauvreté, c'est bon, on est bien. Et donc forcément, si on parle de décroissance, eh ben, on panique. Parce qu'on se dit, bah oui, alors on va avoir moins d'emplois, on va avoir de la pauvreté, des inégalités, ça ne va pas aller, etc., etc. Et ce débat, il nous enferme. Pourquoi ? Parce qu'il garde le PIB au cœur du débat.
Vous le remplacez par quoi, vous?
Mais si on a besoin d'indicateurs, moi, en tant que décideur politique, j'ai besoin d'indicateurs environnementaux et sociaux. Pour savoir si, par exemple, on a plus d'oiseaux, moins d'oiseaux, le PIB ne me dit rien sur la quantité d'oiseaux.
Alors, comment est-ce qu'on évalue la bonne santé?
Alors, dans ce cas-là, on a besoin d'indicateurs d'inégalité, de pauvreté, des indicateurs environnementaux, etc. Moi, je me bats pour ça au Parlement européen, parce que sinon, on reste dans quelque chose qui nous piège et qui nous fait peur, en plus.
Des indicateurs de prospérité. On a besoin de faire croître le bien-être. Donc, ça veut dire combien on vit d'années en bonne santé, combien d'enfants sortent du système scolaire, éduqués ou pas éduqués. Ces indicateurs-là, aujourd'hui, ils n'existent pas. Ils sont complètement gommés et masqués par le PIB. Mais juste peut-être pour un mot pour revenir sur cette idée de décroissance et de croissance verte. En fait, effectivement, on est en train de comparer deux mythes. Je suis d'accord sur le fait que la croissance verte, telle qu'on peut la présenter, est un mythe et que, d'une certaine façon, le découplage total, pur, rapide, pur et simple des émissions de CO2 avec le PIB n'est pas quelque chose qui est atteignable aujourd'hui. Mais la décroissance est un mythe également. Il n'y a aucune démonstration aujourd'hui, aucune preuve à aucun endroit du fonctionnement du système de décroissance, c'est-à-dire de la décroissance réelle d'une économie qui soit faite dans un socialement acceptée. On l'a vu justement.
Sauf pendant la crise.
7% de baisse du CO2 pendant la crise. C'est ce qu'il nous faudrait tous les ans pour réussir la
croissance. La décroissance, c'est forcément la crise.
Un Covid par an, c'est juste impossible socialement.
Vincent Liégé, la décroissance, c'est forcément la crise.
Alors c'est justement éviter la crise. Il n'y a rien de pire qu'une société de croissance sans croissance. C'est ce qu'on a connu en période de Covid. Ça génère tous les problèmes que l'on a pu avoir, etc. Et la décroissance, ce n'est pas le contraire de la croissance. Le contraire de la croissance, ça s'appelle la récession. La décroissance, c'est de sortir de notre modèle de société, de notre modèle économique aujourd'hui capitaliste, néolibéral, de notre productivisme, de notre consumérisme, de notre matérialisme, de notre technoscientisme, économiste, je peux en rajouter plein, de sortir de cet imaginaire-là et de questionner quels sont nos besoins fondamentaux et comment on y répond de manière soutenable, de manière souhaitable. Et ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, il y a quand même toute une convergence d'études qui ont été faites, en particulier en France, mais qu'on retrouve un peu partout dans les pays occidentaux et aussi à travers le monde, qui montrent, notamment une des dernières qui a été faite par le MEDEF, qu'on ne peut pas soupçonner de décroissancisme, etc., qui montre que la majorité des citoyennes et des citoyens français, dans cette étude, on trouvait 57%, et c'est la tendance, qui pense qu'il serait plutôt souhaitable, il serait plutôt sensé, il serait préférable de choisir le projet de décroissance, c'est-à-dire de sortir de ce modèle économique, d'aller vers la sobriété, plutôt que de faire ce pari qui est extrêmement risqué, qui est le pari de la croissance verte ou de l'innovation technologique.
Vincent Liégé, vous avez évoqué de nombreux critères, capitaliste, libéral, consumériste. Il y en a un que vous n'avez pas évoqué, c'est numérique. En plus, nous vivons dans des économies aujourd'hui numériques. Et précisément, Nadia, aujourd'hui même, le Sénat examinait une proposition de loi visant à réduire la pollution numérique.
Oui, en deuxième lecture, il me semble, parce que, et pour cause, donc, quand on parle de pollution numérique, selon certaines estimations, si Internet était un pays, ça fonctionne toujours bien comme image, il serait le 7e plus grand pollueur du monde. Il émettrait aujourd'hui 4% des gaz à effet de serre, soit davantage que le transport civil aérien. Et ce bilan carbone du numérique est plutôt ignoré, d'ailleurs, des consommateurs et des citoyens. Il tient autant à la production, à la fabrication, qu'à l'usage qu'on en fait. La production, c'est le fait, par exemple, qu'un simple ordinateur qu'on utilise tous, ça mobilise 22 kilos de produits chimiques, 240 kilos de combustible, 1,5 tonne d'eau, sans parler de l'obsolescence programmée, du fait que 75% des déchets électroniques échappent aux filières, en tout cas aux filières légales de recyclage. Quant à la pollution générée par notre usage quotidien, je vous livre cette donnée assez éloquente, assez simple et un peu culpabilisante. Le visionnage de vidéos en ligne sur des plateformes comme Netflix, par exemple.
Faites pas ça, quoi.
Ça émet jamais. Pas sur Netflix. Ça émet 300 mégatonnes de CO2 en un an, c'est-à-dire autant que ce que peut produire un pays comme l'Espagne. Et c'est sans doute pour cet ensemble de raisons, et pourtant j'ai pas tout dit, que figurait dans les 150 propositions de la Convention citoyenne sur le climat cette question de la sobriété numérique. Et dans le même temps, on voit que beaucoup de pays font reposer, dont la France, font reposer la transition énergétique sur la transition numérique. Aurore Laluc, aidez-nous à comprendre si le numérique c'est un allié ou c'est un boulet pour le climat, ou un peu des deux peut-être.
Là, à l'heure actuelle, c'est un boulet. Après, la question de la transition écologique, la difficulté dans laquelle on se trouve, c'est que ça demande de la nuance. C'est-à-dire que ça va dépendre. Et ça ne vous a pas échappé, les termes du débat aujourd'hui dans ce pays font rarement dans la nuance. Donc des fois, le numérique dans certains domaines va pouvoir nous aider, mais là, typiquement, effectivement, c'est un vrai sujet. Et là où je reviens sur le débat entre décroissance et croissance verte, c'est qu'on passe énormément de temps sur ces questions-là, alors que par exemple, sur la question de la sobriété numérique, etc., on a du mal à avancer, parce qu'on a du mal à sortir de ce modèle qui s'est développé tout seul, sans réflexion, parce qu'on est toujours en retard vis-à-vis de la technologie, de la technicité, notre réflexion arrive toujours après. Et il faut savoir qu'il y a eu un grand mythe aussi autour de on va tout dématérialiser, digitaliser,
tout numériser.
Ça va être super, etc. En fait, c'est très, très archaïque, hein, le mode de fonctionnement des serveurs, etc. Et ça tourne souvent avec des énergies fossiles.
Mais au-delà de la question strictement du numérique, il y a la question de la technique et du progrès technique. Est-ce qu'il n'y a pas une sorte d'illusion dans cette idée de la croissance verte, ou je ne sais pas comment vous avez envie de l'appeler, que c'est la technique qui va un jour nous sauver parce qu'on va trouver des solutions pour résoudre les problèmes, notamment des gaz à émissions?
Il y a deux types de techniques d'abord. Il y a celles que l'on connaît aujourd'hui et celles qu'on ne connaît pas. Il y a celles que l'on connaît aujourd'hui, c'est-à-dire les solutions qui sont déjà existantes, disponibles. Les énergies renouvelables, l'efficacité thermique des bâtiments, le passage aux véhicules électriques, l'agroécologie. Tout ça, c'est des choses qu'on a aujourd'hui. On sait rénover un bâtiment. Mm-hmm. On sait le rénover. On ne le fait pas. Il y a toujours des passoires thermiques.
C'est des choses qu'on a, mais qu'on ne développe peut-être
pas suffisamment.
Il faut investir dans cette direction-là.
Pas suffisamment et pas suffisamment vite. Voilà. Mm-hmm. Et puis, il y a ensuite, effectivement, le rêve, l'imagination que dans les 20, 30 années qui viennent, il y aura des innovations de rupture qui vont nous permettre de complètement résoudre le problème. Peut-être. Je pense que faire le pari de ces innovations-là est extrêmement dangereux. Oui. C'est-à-dire que je crois qu'il vaut mieux aujourd'hui se concentrer sur les solutions que l'on a déjà et effectivement faire le maximum pour les déployer très vite plutôt que d'imaginer qu'on va avoir l'innovation de rupture demain. Et si elle arrive, tant mieux. Voilà. Et donc ça, juste quand même sur l'investissement, voilà, on sait aujourd'hui qu'il manque entre 13 et 17 milliards d'investissements en France pour réussir ça. C'est le think tank I4C qui le dit chaque année. Donc on a un besoin d'accélérer effectivement ces investissements.
Vincent Léger, est-ce que dans la décroissance, il n'y a pas un renoncement qui est quand même terrible pour l'humanité, qui est de se dire on va cesser de progresser? Comment on fait avec cette...
Alors, ce qui est intéressant, c'est que dans l'imaginaire dominant, et on l'a vu dans les discours de M. Le Maire, de M. Macron, etc., progrès est nécessairement progrès technique. Mais progrès, ça peut être de passer plus de temps avec ses enfants, ça peut être d'être plus intelligent, de savoir communiquer les uns avec les autres. Progrès, vous l'avez évoqué.
Les croissances sont hostiles au progrès technique. Vous pensez que le progrès technique
est une menace ? C'est exactement ce que disait Aurore juste avant. Il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs. Il faut d'abord poser la question de quel est le projet de société ou quels sont les projets de société souhaitables et comment les outils que nous avons à notre disposition, que ce soit des outils économiques, institutionnels ou techniques, technologiques, peuvent être utiles au service.
C'est-à-dire la décroissance, ce n'est pas une moins bonne qualité de vie. C'est pas vivre moins bien.
C'est moins mais mieux. Donc c'est le progrès technique, c'est ce que vous évoquez. C'est par exemple l'agroécologie, c'est la permaculture. C'est dans les techniques, moi quelque chose que je pratique beaucoup, la question des low-tech.